Merci Samuel, sois le bienvenu.
Merci. Merci beaucoup, bonjour. Effectivement, j'ai grandi au Bressel. C'est un très joli coin, mais apparemment, vous pouvez moins le visiter maintenant parce que c'est une rue bordier autorisée, je crois. Donc. Par contre, vous pouvez toujours aller faire du vélo, courir là-bas, c'est sympa. J'ai été pasteur pendant une quinzaine d'années à Neuchâtel. Et puis, il s'est passé un truc un peu spécial l'année passée, enfin, fin 2019. J'ai donné ma démission de mon poste. Et puis, j'étais un peu inquiet parce que vous savez, quand on donne sa démission, même s'il y a du chômage possible après, ben, il y a des pénalités. C'était une année très compliquée aussi pour mon épouse qui dirige une école privée Montessori à Neuchâtel. Et puis, c'était une sale année pour elle. Elle n'avait pas eu assez d'élèves. Donc, du coup, en tant que membre de la direction, ben, quand ça va bien, il y a un salaire. Puis, quand ça va moins bien, il y a moins de salaire. Je pense que les indépendants parmi nous, ils connaissent ce genre de problème. Et puis, du coup, on avait épuisé un peu toutes nos réserves. Puis, c'est à ce moment-là que je sentais que c'était juste de démissionner. Et tout début janvier, paniqué, dans mon lit, à 6h30 du matin, je dis à Dieu, Seigneur, débrouille-toi. Je ne sais plus quoi faire. J'ai postulé à quelques endroits, mais en même temps, ça ne me convient pas vraiment. Mes factures sont tes factures. Mes enfants sont tes enfants. J'ai trois bouches à nourrir. On a trois garçons à la maison. Et ça mange. Bon, ils sont petits encore, ça va, on verra quand ils seront adolescents. Et puis, j'étais dans mon lit, et à ce moment, j'avais les yeux fermés, et une phrase s'imprime devant mes yeux, fond noir, écrit en blanc, va surfer sur le site de Compassion Suisse. J'étais allé une fois sur le site parce qu'on parraine un enfant depuis quelques années, et puis je me lève, 6h30, je vais dans mon fauteuil au salon, je prends mon ordinateur, je recommence à regarder. C'était très intéressant. Jusqu'à ce que j'arrive tout en bas, où c'était écrit « Nous engageons ». Et puis, je clique sur l'annonce, l'offre d'emploi. Et puis là, ben, c'était ma description. On cherche quelqu'un qui sait prêcher, qui a un réseau dans les églises en Suisse romande, qui sait s'adresser aux jeunes, qui a une expérience, etc., etc., qui a à cœur le combat contre la pauvreté, enfin, toutes ces choses-là. Et puis, je me suis dit, mais c'est moi, ça, il faut que je postule. Et du coup, j'ai postulé. Et quelques jours plus tard, on me contacte en me disant oui, on aimerait te voir en entretien d'embauche. Et je me suis vraiment bien préparé. Je me suis dit, ce n'est pas parce que j'ai un billet de triche de la part du Seigneur que je ne dois pas faire ma part. Donc, du coup, je me suis bien préparé. J'ai fait l'entretien d'embauche et qui s'est bien déroulé. Et on m'a dit à ce moment-là, écoute, il y a une dizaine de personnes qui ont postulé, donc on te recontacte dans 2 semaines. Mais le lendemain, ils m'ont envoyé un mail en disant, en fait, on est convaincu par l'entretien qu'on a eu, donc c'est plutôt toi qu'on va engager. Et puis du coup, j'ai eu le poste assez rapidement, en fait. Alors j'étais vraiment mais choqué. Je me suis dit, mais c'est incroyable que, enfin, je le crois, mais voilà, que Dieu prenne soin de nous à ce point-là. Puis après, je me suis dit, oui, mais il y a aussi 9 qui n'ont pas eu le poste. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Je veux dire, moi, je suis content d'être favorisé cette fois-ci. Alors, je suis bien conscient que si une prochaine fois je dois retrouver du travail, peut-être ça ne se passera pas comme ça. Mais dans mon expérience, au creux de la vague, Dieu était là. Et j'ai envie de vous encourager si vous êtes dans un creux de vague ce matin ou cette année ou je ne sais pas, un moment difficile de votre vie. Moi, je pense vraiment qu'on a un papa qui s'occupe de ses enfants, parfois en donnant un travail, parfois en travaillant notre caractère le temps qu'on trouve un travail, parfois je ne sais pas, mais je pense qu'il suit son plan. Et puis j'avais envie de vous encourager dans ce sens-là. Et ça fait écho aussi avec une pensée que j'ai eue au tout début de la pandémie. Vous savez, dans Ésaïe, Dieu parle à son peuple au début je ne sais plus quel chapitre, peut-être Ésaïe 2, je ne sais plus exactement, où Ésaïe dit que Dieu veut nous raffiner comme on raffine de l'or. Alors on se dit, c'est génial, on aura plus de valeur, c'est extraordinaire, on sera un meilleur métal, c'est extraordinaire, tout le monde a envie d'être raffiné. Seulement, le processus de raffinage n'est pas forcément agréable. Vous savez, quand on voit une pépite d'or, on ne peut pas savoir si elle est... C'est très rare. Si elle est pure à 100%, si elle est pure à 90, 80, 70 ou encore moins. Parce qu'en fait, les saletés, les scories, elles sont dans le métal, dans la pépite. Et la seule façon pour raffiner de l'or, c'est de faire monter la température, de faire fondre le tout. Et comme l'or est extrêmement dense, il va descendre et tout le reste, tout ce qui est moins pur que l'or, tout ce qui n'est pas de l'or, en fait, va se retrouver en surface une fois que c'est refroidi. Et c'est là qu'on peut prendre une brosse et puis enlever les saletés. Et j'ai l'impression que cette pandémie, c'est Dieu qui raffine. C'est Dieu qui raffine son Église. Alors, il a la température qui est montée. Ça ne fait pas super plaisir. Mais peut-être que derrière, on peut être un or raffiné. On peut être une Église qui fonctionne mieux, une Église qui prend mieux soin les uns des autres. Moi, j'ai visité une cinquantaine d'églises depuis une année. J'ai vu des gens qui m'ont dit « Jamais je n'ai autant lu la Bible que cette année ». Parce que je me suis rendu compte que j'avais désespérément besoin d'avoir cette connexion personnelle avec Dieu. Je ne peux pas compter que sur mon pasteur, je ne peux pas compter que sur l'équipe de louange, je ne peux pas compter que sur toutes les personnes qui nous entourent d'habitude. J'ai dû prendre mes responsabilités. Et moi, j'ai envie de vous encourager. Peut-être que moi, je ne sais pas d'où vient ce virus, je ne sais pas quel est le plan de Dieu là derrière, je ne sais pas si c'est une attaque de l'ennemi ou si. J'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'on a une opportunité pour se rapprocher de Dieu. Et j'ai vraiment envie de vous encourager dans ce sens-là. Ne baissez pas les bras. C'est le moment de prier plus. C'est le moment de lire plus votre Bible. C'est le moment d'ajuster votre existence aux principes qu'on trouve dans la Bible. C'est tellement important. Et ne laissons pas passer cette chance de raffinage. J'ai vraiment envie de vous encourager dans ce sens-là. Voilà pour ma petite introduction. Désolé, c'était un peu improvisé. Mais... Voilà, voilà. Comme l'a dit Florence, ce matin, on va parler de la question de la pauvreté. Et... Le thème de mon message s'intitule « Le cœur de Dieu pour les pauvres ». Le cœur de Dieu pour les pauvres. Je ne sais pas si vous savez que dans la Bible, il y a environ 500 versets qui parlent de la prière, moins de 500 qui parlent du salut, 700 qui parlent d'argent, 300 qui parlent directement du don et des dons à faire aux pauvres, et 2350 versets qui parlent de bien, de richesse, d'éthique dans l'économie, du fait d'entreprendre, du fait de faire fructifier ce que Dieu nous a confié. Toutes ces notions, en fait, de la vie de tous les jours qui participent de la vie économique et aussi des relations qu'on a avec les finances et avec l'argent. 15% des paroles de Jésus concernent l'argent et les possessions. Alors, quand Jésus il a dit à ses disciples, « Faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit », il faut aussi qu'on parle d'argent. Parce que sinon, on enseigne seulement 85% de ce que Jésus a dit, vu que 15% touche aux finances. Et souvent, dans les églises, on n'aime pas trop parler de finances parce que c'est gênant, surtout si c'est le pasteur ou la pasteur qui parle d'argent, parce qu'après, on se dit « Ah, mais est-ce qu'elle prêche pour son salaire ?» C'est des questions. Et même, moi, j'ai vu dans les 15 ans que j'étais pasteur, même en étant intègre par rapport, dans mon cœur, par rapport aux finances, quand je parlais des finances, il y avait un petit doute chez les gens. Donc maintenant, je suis content parce que je ne suis pas engagé par cette église. Donc, il n'y a pas de problème. Moi, je ne prêche pas pour mon salaire. Mais par contre, je trouve que c'est intéressant que 16 des paraboles de Jésus tournent autour de la question des finances. Encore une fois, la Bible a plus à dire que n'importe quel livre religieux sur les biens, les richesses, l'argent, les pauvres, le travail, l'activité économique, toutes ces choses-là. En fait, c'est un manuel d'économie, un manuel de relations sociales dans le monde du travail. Et... je pense qu'on peut s'en inspirer. Alors évidemment, ça parle aussi beaucoup de maîtres et d'esclaves, et je pense que ce serait pas mal si on disait plutôt maintenant les patrons et les employés, hein, parce que ce n'est pas tout à fait le même rapport. En Europe, en Occident, on a réussi à dépasser ça, même s'il y a encore beaucoup d'endroits où il y a de l'esclavage encore aujourd'hui. Jésus, Paul, Pierre, Jacques, tous ont enseigné sur l'argent, tous. Et on doit aborder ce thème, je pense que c'est important. Mais la question que je me pose, c'est du coup, pourquoi autant de versets sur les biens, les richesses et l'argent. Je veux dire, est-ce que le salut n'est pas plus important que les biens matériels? Moins de 500 versets qui expliquent comment être sauvé. 2350 qui expliquent comment gérer nos finances. C'est une question quand même. Et moi, je pense que Dieu n'a pas besoin de notre argent, vu qu'il l'a créé. En effet, tout l'or et l'argent du monde entier m'appartiennent, dit le Seigneur. Notre Dieu est immensément riche. Il est immensément riche. Et s'il lui manquait un peu d'or ou un peu d'argent, il n'aurait qu'à faire comme ça, il en crée, ce n'est pas un problème pour lui. Donc, pourquoi nous parle-t-il autant d'argent? Mais en fait, la réponse, elle est dans Matthieu 6, 24. « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. » Mammon, c'est la puissance spirituelle qui se cache derrière l'argent et qui souhaite nous faire adorer l'argent plutôt que Dieu. Et c'est très insidieux, c'est très manipulateur de sa part, parce qu'en fait, Mammon va chercher à attirer notre adoration par nos inquiétudes, souvent. Alors bien sûr, il y a l'amour de l'argent un peu crasse, je ne sais pas comment dire, un peu picsou, vous savez, celui qui veut ramener tout l'argent vers lui. Mais en général, les gens ne sont pas comme ça. Souvent, les gens, ils sont plutôt juste inquiets. Et un jour, quelqu'un m'a dit, l'inquiétude, c'est une forme d'adoration. Et ça m'a choqué, ça m'a fâché. Puis après, je me suis dit qu'il avait raison. Pourquoi ? Lorsque nous nous inquiétons sur nos finances ou sur comment est-ce que nous allons vivre notre vie matérielle, alors même que Dieu a dit qu'il nous promettait, il nous promet qu'il va prendre soin de nous. Il nous dit que les oiseaux du ciel ne sèment pas, mais pourtant le Père Céleste prend soin d'eux. Il nous dit ne vous inquiétez pas du lendemain. Il nous dit toutes ces choses. Et quand même, souvent, trop souvent, nous nous inquiétons par rapport à l'argent. Est-ce que ce n'est pas une façon de dire à Dieu, cause toujours, moi je m'inquiète. C'est une forme d'adoration, de mettre quelque chose ou quelqu'un d'autre sur la première marche du podium de notre vie, plutôt que de mettre Dieu qui a promis de prendre soin de nous. Et du coup, lorsque Jésus dit « Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et Mammon », ce n'est pas juste un conseil. Il dit « C'est une impossibilité. Si Mammon est là-bas, Dieu est là-bas. Vous ne pouvez pas être vers les deux en même temps. C'est impossible. » Et donc, je pense que c'est pour ça que Jésus a autant parlé d'argent. Je pense que c'est pour ça qu'il y a 2350 versets qui parlent d'argent et de finances et de biens matériels dans la Bible. C'est pour nous enseigner à nous séparer de ce mauvais maître qu'est Mammon, pour nous attacher à ce bon maître qu'est Dieu. Et j'ai envie de parler de ça un petit peu ce matin, en espérant que ça vous intéresse. Je vais vous encourager à faire des choix radicaux pour Dieu. Et c'est pour ça que j'ai intitulé ce message « Le cœur de Dieu pour les pauvres ». Parce que s'il y a des pauvres, ben, il y a évidemment aussi des riches, ou des moins pauvres. Et je pense qu'on est tous le pauvre de quelqu'un, mais on est aussi tous le riche de quelqu'un. Vu qu'il y a forcément, il y a une personne sur toute la planète qui est la personne la plus pauvre, alors elle ne peut pas dire ça, mais ce n'est certainement pas vous. Et il y a une personne sur toute la planète qui est la personne la plus riche, et donc il n'y a personne de plus riche qu'elle, mais ça, ce n'est pas vous non plus, je crois. Ou bien alors, vous vous appelez Elon Musk, ce qui est la personne la plus riche actuellement. Enfin, j'ai quelques points à partager. Premier point, c'est que Jésus a inauguré son ministère en parlant des pauvres. Je ne sais pas si vous savez que dans Luc 4, que vous avez lu dernièrement, Luc 4, 18 nous dit ceci. Jésus, il est dans une synagogue, on lui tend le rouleau d'Ésaïe, on lui dit « Vas-y, fais-nous la lecture du jour ». Ce n'était pas les petits versets qu'on suspend au mur où il y a chaque fois un verset pour chaque jour, mais c'était à la synagogue, c'est comme ça que ça se passait. Et en tant que personne peut-être invitée ou importante qui se trouve là, on lui tend les rouleaux. Mais Jésus l'avait déjà fait par le passé, probablement parce qu'il allait à la synagogue tous les Shabbats. Mais en fait, là, on lui donne le rouleau d'Ésaïe. Et le texte nous dit que Jésus chercha un passage en particulier. Et il lit ceci dans Luc 4, 18. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Intéressant qu'il mentionne les pauvres en premier. Il aurait pu dire « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a mandaté pour reconnecter Dieu à son peuple, pour apporter le salut, pour apporter je ne sais pas quoi. Bonne nouvelle aux pauvres. Une bonne nouvelle pour les pauvres. Jésus a décidé que l'évangile serait une bonne nouvelle pour les pauvres. La première catégorie de personnes que Dieu déclare vouloir bénir, ce sont les pauvres. Et si les pauvres étaient les tout premiers destinataires de l'action de Jésus, est-ce qu'ils ne devraient pas aussi être les tout premiers destinataires de notre action à nous ? Est-ce qu'on ne devrait pas au minimum y penser, réfléchir, faire quelque chose pour ces gens-là? Est-ce qu'on ne devrait pas copier Jésus dans ce domaine? Vous savez, quand on se nomme chrétien, chrétien c'était à la base un surnom, un quolibet, on se moquait des gens, on les disait « espèce de petit Christ, espèce de petit Jésus », parce que les gens ils faisaient tout tellement comme Jésus. Et nous on se nomme chrétien, est-ce qu'on mérite ce surnom de petit Christ? Ou bien est-ce qu'on est focalisé sur notre propre vie 99% du temps? Et puis 2 heures par semaine, tout d'un coup, on dit « Ah, il faut qu'on pense à l'Église, il faut qu'on pense à Jésus, il faut qu'on pense aux autres. » Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui doit se produire dans notre cœur. Jésus a inauguré une toute nouvelle manière de considérer les échanges entre les humains. Alors que le monde dans lequel on existe, dans lequel on vit, ne connaît que 2 types de transactions en général, c'est acheter et vendre, vous savez, par rapport à l'argent. Bon, il y a aussi le don de temps en temps, il y a aussi le vol, mais ça, ce n'est pas recommandé. Mais c'est surtout acheter et vendre. Et Jésus propose un autre type de transaction, c'est donner et recevoir. Et ça fait une différence phénoménale. Et d'ailleurs, le plus grand donateur de tous les temps, c'est Dieu lui-même. Que nous dit la Bible ? Que nous dit la Bible ? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Et ça me mène à mon deuxième point qui est le don procède toujours de l'amour. Le don procède de l'amour. Autrement dit, je vais le dire autrement. Je pense qu'on peut faire des dons sans aimer, c'est possible. On peut faire des dons pour se donner une bonne conscience, pour manipuler, pour corrompre, pour convaincre, pour séduire, pour créer un changement. Il y a plusieurs types de motivations pour les dons. Par contre, il n'est pas possible d'aimer sans donner. Ça, c'est sûr, c'est impossible. Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un sans donner. Parce que si vous ne donnez pas à cette personne, ben vous ne l'aimez pas. Alors, ce n'est pas seulement de l'argent, hein, c'est donner du temps, donner de l'attention, donner des compliments, donner de l'importance. Vous mettez ce que vous voulez, mais le don, forcément, fait partie de l'amour. Et pensez aux gens que vous aimez le plus, à vos enfants, à vos parents, à vos frères et sœurs, peu importe. Vous leur donnez tout le temps, en général. Moi, j'ai 3 enfants à la maison, ils ont 10 ans, 8 ans et 3 ans. Ce matin, ils ont voulu déjeuner. Je ne leur ai pas demandé 3 francs pour le petit-déj. Ce serait une famille un peu dysfonctionnelle si c'était comme ça. Ou bien, imaginons que vous vous invitiez après le culte pour manger ensemble, pas plus que 5, ah non, on peut 10, hein, je crois, voilà, bref, peu importe. Vous mangez un bon repas, vous ne facturez pas le prix du rôti à vos invités. Ce ne serait pas sympa. Disons que vous auriez vos amis, mais pendant un petit moment, après, ce serait moins des amis. Et parce qu'en fait, le don, le partage fait partie de l'amour. Et je pense qu'on doit apprendre à redécouvrir la valeur du don. Vous savez, dans Marc 10, il y a un jeune homme qui vient vers Jésus, qui lui dit, j'ai envie, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Excellente question. On devrait tous la poser au moins une fois. Et Jésus lui dit, qu'est-ce que tu trouves dans la loi? Le jeune homme lui cite quelques passages, et Jésus lui dit, c'est très bien, fais ça et tu vivras. Puis le jeune homme, il insiste, il dit, mais moi je fais ça depuis le début, mais je sens qu'il y a un truc qui ne va pas, il me faut quelque chose d'autre, j'ai besoin de cette vie éternelle. Je ne te lâche pas tant que tu ne m'as pas dit comment faire. Bon, je paraphrase un petit peu. Et puis, Jésus lui dit, écoute, je t'aime tellement, je vais te donner mon meilleur conseil. Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Marc 10, 21. Puis il lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Surprenant, ça pique un peu quand même. Hein, et regardez ce qui se passe. La nouvelle transaction, Jésus dit, utilise le système du monde, acheter et vendre, et investis dans le système de Dieu, du royaume, donner et recevoir. Va, tu vends, puis tu donnes. Extraordinaire. Et moi, je trouve que Jésus a mis ce jeune homme sur un chemin de bénédiction. Pourquoi? Tu auras un trésor dans le ciel. Combien de fois avons-nous été enseignés sur le fait que c'était possible d'avoir un trésor dans le ciel? Moi, je me rappelle très bien, j'ai grandi avec comme seul objectif dans ma foi chrétienne, il faut être sauvé. Au minimum, il faut être sauvé. Mais on avait oublié de me dire, Jésus le dit plusieurs fois, faites-vous un trésor dans le ciel, là où il n'y a pas de voleur. On peut se faire un trésor. Ça veut dire qu'on peut aussi aller au ciel sans le trésor. Hein? L'apôtre Paul, à un moment donné, dans Corinthiens, nous dit, vos œuvres, vous bâtissez sur le rocher qui est Christ, mais ensuite vous bâtissez une maison. Et cette maison, elle peut être faite avec du bois, du chaume, de la paille, ou bien alors avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses. Et il y a un feu, le feu du jugement, qui fera connaître la valeur de vos œuvres. Et certains d'entre nous, on va arriver au ciel en étant sauvés, comme dit l'apôtre Paul, comme au travers du feu, et d'autres, on va arriver au ciel avec des richesses. Alors, ce n'est pas l'objectif de se la péter après et dire « Ah, moi, je suis riche », ce n'est pas ça du tout. Mais par contre, c'est de se dire « Pourquoi Jésus nous a dit qu'il y avait un trésor possible dans le ciel ? Est-ce que ce n'est pas au minimum un indice sur comment vivre notre vie sur terre ?» Moi, j'ai envie de nous encourager. Recherchons le trésor du ciel. Et s'il faut se séparer du trésor terrestre, pourquoi pas ? Vous savez, la vie sur terre, c'est ça, et c'est fini. Et après, il y a la vie éternelle. Mais sur ce clap, il y a tout qui se décide. Et peut-être que la durée de notre vie sur cette terre, elle sera peut-être de 50 ans, 60 ans, 80 ans, certains 20 ans. C'est très peu de temps pour une éternité, pour déterminer l'éternité. Et moi, j'ai envie de nous encourager à avoir les bonnes priorités. La vie éternelle, tellement importante. Troisième point, Jésus a encouragé la générosité. Évidemment, on l'a vu dans Marc 10, 21, Mais il nous dit aussi ceci dans Luc 14, et vous l'avez aussi lu dernièrement. Il dit, alors Jésus était toujours invité à table, et d'ailleurs on le critiquait à cause de ça. Moi ça me fait rire, parce que je me dis qu'il devait quand même être un peu dérangeant. Il dit à celui qui l'avait invité, donc il dit quelque chose à quelqu'un qui l'invite. En général, quand on nous invite, on est poli. Mais là, Jésus, il dit à celui qui l'avait invité, il le recadre un petit peu, il lui dit ceci, « Lorsque tu donnes à dîner ou à souper, ne convie pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni tes voisins riches, de peur, au secours, de peur, qu'ils ne t'invitent à leur tour, et que ce soit là ta rétribution. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, des gens que tu ne connais pas bien, des gens qui t'énervent, des gens qui sont différents, des gens qui n'ont pas la même culture que toi, des gens avec qui tu ne traînerais pas normalement, mais tu traînes avec eux. Pourquoi ? Parce que tu veux être généreux avec eux. » C'est ça, en fait, la recommandation du Seigneur pour les fêtes de famille, pour les fêtes de Noël, pour combien de fois on a invité des gens qu'on connaissait mal à la maison. Mais si on ne le fait pas, comment est-ce qu'on va leur transmettre l'Évangile ? En général, c'est par les relations que ça passe. Et les relations, ça passe toujours mieux quand il y a un bon repas. Hein ? Et si notre stratégie d'évangélisation, ce n'était pas inviter des gens à la maison, leur servir un bon repas, se connecter au niveau de l'amitié, s'intéresser à eux ? C'est une question que je vous pose. En tout cas, Jésus dit, invite des pauvres, des gens qui ne peuvent pas te le rendre. Je ne sais pas si vous savez, dans l'Ancien Testament, là, on va parler de la dîme. Alors, il y a des gens que ça énerve. Moi, j'aime bien parler de la dîme parce que je pense que la dîme, c'est une forme de bénédiction. Dieu a prévu la dîme pour nous bénir. Souvent, quand on parle de dîme, il y a tout un débat. Est-ce que c'est encore valable dans le Nouveau Testament ? Parce que la dîme, alors le mot dîme signifie 10%. Vous ne pouvez techniquement, vous ne pouvez pas donner une dîme de 9% ou de 11%. La dîme, c'est 10. Après, si vous donnez 9 ou 11, ben, c'est des dons. Mais ça ne s'appelle pas une dîme. Une dîme, c'est 10%. En tout cas, c'est un synonyme, hein, 10% dîme. Je ne veux pas être trop religieux par rapport à ça, ce n'est pas un problème. Mais par contre, alors il y a des gens qui me disent « Oui, alors la dîme, c'était 10%, c'était dans l'Ancien Testament. Maintenant, on est dans la Nouvelle Alliance. » Alors, bonne nouvelle, la Nouvelle Alliance, effectivement, ce n'est plus 10%, c'est 100%. Le jeune homme riche, Marc 10, 21, « Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. » Et puis en plus, la dîme, c'était de toute façon pas que 10%. Il y avait plusieurs dîmes dans l'Ancien Testament et c'est ça que j'aimerais vous montrer. Il y avait une première dîme de 10% par an pour le temple et les Lévites. Vous trouvez ça dans Nombre 18, verset 21. En gros, c'était ce qui permettait à Israël d'être organisé autour du culte à Dieu. Les Lévites étaient une tribu qui n'avait pas eu de terre, donc ils ne pouvaient pas cultiver. Ils étaient dépendants des richesses que les autres voulaient bien leur partager. Ensuite, il y avait un 10% par an, c'était pour les fêtes religieuses, la transmission de la foi. On voit ça dans Deutéronome 14, 22. Dieu dit au peuple d'Israël, mettez 10% de côté pour faire la fête. Et le but de ces fêtes, c'était de rappeler l'alliance. C'était de transmettre la foi à la génération d'après. Imaginez ce qui se produirait dans nos familles si on mettait 10% de notre revenu pour faire la fête avec nos enfants, une fête qui tourne autour du Seigneur, pour leur donner cette faim et cette soif et cette passion et cette joie de marcher avec Dieu. Ce serait extraordinaire. Et il y avait encore 10% tous les 3 ans, récoltés tous les 3 ans, qui étaient pour les pauvres, les immigrés, les veuves, les orphelins. Vous additionnez ces 3 dîmes, ça fait 23,33%. Ça, c'est la loi. On voit que Dieu avait l'intention que son peuple soit généreux. Moi, je dois vous confesser, je ne donne pas 23% de mon revenu, mais avec ma femme, on s'est dit, eh ben, pourquoi ce ne serait pas un objectif ? On pourrait déjà commencer à 10, puis après on monte à 11, 12, 13. Cette année, je crois qu'on est à 14, alors on a encore un peu de marge. Hein. Mais Dieu bénit. Jusqu'à présent, Dieu bénit. Et je ne vais pas être religieux si tout à coup, un jour, on a des factures, c'est très, très compliqué. Ben, moi, je dirais au Seigneur, ben, comment on fait ? Puis peut-être qu'il me dira, va creuser un trou dans le jardin, et puis je tombe sur un lingot d'or. Mais s'il ne fait pas ça, ben, moi, je ne sais pas comment Dieu va prendre soin de nous. Je sais qu'il va prendre soin de nous, c'est tout. Et ça m'encourage à être généreux. Intéressant, cette dîme, n'empêche. Hein, c'est-à-dire, waouh, 23,33% qui était prévu pour les pauvres. Alors, il y a plein de bénédictions qu'on trouve dans la Bible en lien avec les dons à faire aux pauvres. Ce sont des promesses motivantes pour moi. Par exemple, Psaume 41, verset 2 à 4. « Heureux celui ou celle qui se soucie du pauvre, le jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre et tu ne le livres pas au pouvoir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de souffrance. Il le soulage dans toutes ses maladies. C'est mieux que la lamale. Mais par contre, ce n'est pas automatique. Vous savez, des fois, les gens, ils prennent les passages dans la Bible et puis disent « Ah, ça s'applique à moi, tout ça. » Et puis, cette espèce de foi automatique, comme si Dieu était un robot. Et je crois que c'est quelque chose qui fait appel à notre foi. Mais moi, j'ai envie de me laisser interpeller par ce genre de verset en me disant « Mais Seigneur, d'accord, moi, je te fais confiance. Dans ma maladie, ou si j'ai un ennemi, ou s'il y a le jour du malheur, moi, je te fais confiance. » Et je lui rappelle, il le sait très bien, le psaume 41, verset 2, je lui dis « T'as promis. Est-ce que, Seigneur, tu ne voudrais pas me guérir ?» Et je pense que Dieu honore ce genre d'attitude ou ce genre de demande. Parce qu'en fait, c'est, quand on fait des demandes qui sont en accord avec la parole, Dieu ne va pas se renier. Je crois que Dieu a envie de nous bénir de cette façon. L'homme bienveillant sera béni parce qu'il partage sa nourriture avec l'indigent. Voilà. Alors nous, c'est une petite phrase, deux lignes. Mais est-ce que vous avez déjà imaginé ce que signifie partager votre nourriture avec un indigent ? Un indigent, c'est quelqu'un qui est très maigre parce qu'il n'a rien. C'est quelqu'un qui a des habits sales, qui n'a peut-être pas de chez soi. C'est quelqu'un qui vient frapper à votre porte quand vous n'avez pas envie d'être dérangé, qui vous dit ou qui tend la main dans la rue parce qu'il n'a rien. Donc forcément, moi, j'ai traduit ça comme ça dans mon style de caractère. Forcément, ça va me déranger. Souvent, moi, je vais du point A au point B, si possible, sans trop de distraction. J'ai envie de gagner du temps, ce genre de choses. Donc voilà, quand on vient me demander un truc, ça me dérange. Mais donc, ce passage fait appel à nos réflexes. Quel est ton réflexe quand on vient te demander un truc ? Est-ce que tu prends soin de la personne ? Ou bien est-ce que tu dis « Non, 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 ma vie, elle est trop importante par rapport à la tienne, je ne m'intéresse pas à toi. » Hein ? L'homme bienveillant, on est bienveillant quand on prend soin des autres. Quand on prend soin des autres. Partager sa nourriture avec l'indigent. Partager ce que tu veux pour toi-même. Et tu le donnes aux autres. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel qui le lui revaudra. Je pense que c'est le seul passage dans la Bible où il est écrit que Dieu peut avoir une dette envers nous. D'habitude, c'est dans l'autre sens. Mais là, celui qui a pitié du pauvre prête. Donc, quand on prête à quelqu'un, l'autre a une dette. Avoir pitié du pauvre, c'est prêter à Dieu qu'il va nous le rendre. Alors, je ne sais pas s'il va nous. Si je donne 100 francs à quelqu'un, ce n'est pas marqué que Dieu va nous redonner 100 francs. Peut-être qu'il va me donner de la joie, ou du bonheur, ou de la santé, ou quelque chose d'autre, peu importe ce qu'il a imaginé. Mais en tout cas, il y a un passage dans la Bible qui dit que Dieu nous rend lorsqu'on a pitié des pauvres, lorsqu'on donne aux gens, lorsqu'on prend soin. Et j'ai envie de vous encourager à prendre Dieu au mot. C'est pour ça que j'ai mis plein de versets bibliques. Vous savez, quand je vais dans plein d'églises différentes, je ne peux pas me permettre de faire un message un petit peu léger au niveau théologique parce qu'après, les gens ils viennent vers moi à la fin du culte pour discuter avec moi. Alors, si vous avez envie de parler, il n'y a pas de problème. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que c'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Ça a été écrit. Et Dieu ne se renie pas. Dieu ne change pas d'avis. Dieu n'avait pas une super idée il y a 3000 ans et tout d'un coup, il s'est dit « Ah ouais, 2020, coronavirus, non, on change les règles. » Non. C'est le même Dieu, c'est le même Seigneur, c'est les mêmes principes. Et Jésus a repris ces principes. J'ai envie de vous encourager dans ce sens-là. Chaque fois que tu en as la possibilité, n'hésite pas à faire du bien à ceux qui en ont besoin. Ne dis pas à ton prochain de revenir le lendemain lorsque tu peux lui donner immédiatement ce qu'il te demande. Saisis l'occasion d'être généreux. Saisis l'occasion, en fait, d'avoir une bénédiction. Et c'est contre-intuitif, parce que nous, on pense que les bénédictions, souvent, trop souvent, on pense que les bénédictions sont liées à notre argent. Mais ce n'est pas vrai à ce qu'on reçoit. Là, Jésus a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ce n'était pas seulement un conseil de boxeur, c'était un conseil de disciple. Plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Je me suis posé la question, qu'est-ce qui se passerait si à mes enfants, le jour de leur anniversaire, au lieu de leur faire un cadeau, je leur disais, t'aimerais faire des cadeaux à qui aujourd'hui ? Ça serait intéressant d'inverser le truc. Alors après, je me suis dit, c'est peut-être le jour de mon anniversaire. Au lieu de demander des cadeaux, je pourrais en faire pour essayer d'instaurer quelque chose dans la vie de mes enfants. Puis voir si ça prend. Peut-être ça prend dans 10 ans. Ce n'est pas grave. C'est une bonne façon de démarrer la vie d'adulte. Soyons généreux. Apprenons à être généreux. Notre Dieu a un cœur pour les pauvres. est-ce que nous, on ne pourrait pas aussi avoir un cœur pour les pauvres? Et j'ai juste envie de terminer ce message en priant et en demandant au Seigneur de simplement venir faire descendre ça dans nos vies et puis que vous puissiez vous laisser aussi interpeller par ça. Seigneur Dieu, je te remercie parce que tu ne nous as pas laissés orphelins ou sans instruction par rapport à la question des richesses qui peuvent être un piège pour nous. Et je te prie, Seigneur, que ce que j'ai partagé ce matin puisse avoir du sens pour cette Église ici. Je sais, Seigneur, qu'il y en a parmi nous qui luttent avec leurs finances, qui sont dans le stress, dans l'inquiétude. Mon objectif, ce n'est pas de mettre une pression supplémentaire, mais c'est de donner une perspective. Seigneur, tu as dit, tu as promis que tu prendrais soin. Alors prends soin. Tu as promis que tu bénirais. Alors s'il te plaît, Seigneur, bénis. Tu as promis que tu nous guiderais. Alors guide-nous. Seigneur, tu as promis ces choses. Et en tant que ton peuple, nous voulons saisir ces promesses. Seigneur, si nous te croyons pour la vie éternelle, nous pouvons te croire pour les autres choses. Nous pouvons te croire pour la guérison physique. Nous pouvons te croire pour la bénédiction matérielle. Nous pouvons te croire, Seigneur, pour la bénédiction émotionnelle, pour les relations. Seigneur, nous pouvons te croire pour ces choses-là. Ne laisse pas à l'ennemi la possibilité de venir voler ces choses. Seigneur, je te prie que ces graines que je plante ce matin, elles soient plantées dans le bon terrain, dans un terrain qui est labouré, dans un terrain qui est plein de bonne terre, pour que ça puisse pousser, Seigneur. Seigneur, je prends autorité aussi maintenant contre l'ennemi qui voudrait venir peut-être picorer ces graines, ou alors les ronces qui voudraient venir comme enserrer cette graine qui voudrait pousser et l'étouffer. Seigneur, je crois que tu prends soin de ta parole. Et tu as dit dans ta parole, tu as dit dans Ésaïe que tu veilles sur ta parole pour qu'elle s'accomplisse. Seigneur, tu es le gardien de la Bible. Tu es le gardien de ses promesses. Et nous voulons juste appuyer nos vies sur ses promesses. Parce que si on n'a plus ses promesses, alors on n'a plus rien. Seigneur, si la vie éternelle est une fausse promesse, alors on n'a rien. Mais Seigneur, nous croyons dans la vie éternelle. Nous croyons dans le salut. Nous croyons dans la croix, dans Jésus qui est mort il y a plus de 2000 ans pour nous. Seigneur, nous croyons ces choses. Aide-nous à croire le reste aussi, Seigneur. En ton nom. Amen. Amen. Alors, comme promis, je vais aussi parler de compassion. Mais je me suis dit que c'était une bonne introduction de parler juste du cœur de Dieu. Et moi, j'ai aussi un cœur pour les pauvres. Compassion a une mission, c'est libérer les enfants de la pauvreté au nom de Jésus. Alors, des fois, il y a des gens qui nous disent « Ouais, mais si vous aviez enlevé au nom de Jésus, ce serait peut-être plus facile d'avoir des financements. » C'est vrai, mais nous, on pense que la pauvreté, elle se soigne au nom de Jésus. Vous pouvez donner plein d'argent à des gens. Si vous ne leur donnez pas Jésus, ils peuvent rester pauvres. Et du coup, notre objectif, c'est de libérer les enfants de la pauvreté. Évidemment, il y a un besoin matériel, mais il y a un besoin énorme spirituel. Et c'est ça qu'on veut aussi adresser dans notre mission, avec notre mission. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on veut libérer les enfants de la pauvreté au nom de Jésus. Je ne sais pas si vous savez qu'il y a presque 10% de la population mondiale qui vit dans l'extrême pauvreté. 800 millions de personnes, c'est 100 fois la population suisse qui vit dans l'extrême pauvreté. Et à cause de la crise du Covid, c'était 100 millions de plus en un an. Alors que ça faisait 30 ans que la pauvreté diminuait, en un an, on est revenu au taux de l'an 2000. Donc, on a perdu 20 ans. Et puis, ce n'est pas fini. Alors, en Suisse, il y a aussi la pauvreté qui a augmenté, on le sait. On a vu des files à Genève, des gens qui voulaient avoir de la distribution alimentaire. Je sais que chaque personne a dû réarranger ses finances, mais en même temps, on a un filet social assez bien développé en Suisse. Je sais qu'il y a des trous dans le filet, mais il y a quand même, globalement, la population suisse s'en tire beaucoup mieux que le reste de la planète. La pandémie a eu des effets dévastateurs. Je donne juste un exemple. Vous savez, en Europe, on est des champions pour critiquer les gouvernements étrangers, et notamment, par exemple, Bolsonaro au Brésil. Moi, je n'ai pas d'avis sur lui, je ne le connais pas, je n'ai jamais bu un café avec lui. Il est critiquable, forcément, mais il a été critiqué parce qu'il avait laissé son pays ouvert, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait de confinement. Mais dans son pays, il y a des millions de personnes qui sont dans la pauvreté. Si vous confinez des gens pauvres, vous leur dites « allez mourir chez vous ». Parce que nous, on nous dit « faites du télétravail quand c'est possible ». Ou bien alors, vous recevrez des aides. Puis si vraiment, ben, on a quand même à manger dans le frigo ou dans le placard, etc. Les gens qui sont dans l'extrême pauvreté, ils vivent sous pression. Ils gagnent leur vie aujourd'hui pour manger ce soir ou demain. Si vous leur dites, tu ne peux pas aller travailler parce que tu risques de choper le Covid, la personne en face, elle a 25 ans, elle dit, hey, moi, je préfère prendre le risque de choper une méchante grippe parce qu'à 25 ans, je pense que je ne suis pas trop à risque. Je préfère ça, gagner ma vie, plutôt que d'être sûr de mourir de faim chez moi. Donc, il y a eu des immenses émeutes dans ces pays. En Afrique du Sud, on a vu des bidonvilles qui s'affrontaient contre la police qui tirait sur ces gens-là. Mais pourquoi? Je veux dire, la vie, la santé n'est pas la valeur ultime de la vie. Je crois pas. Et en tout cas, ça a créé des problèmes énormes. Donc, on voit ces 800 millions de personnes qui sont dans cet état-là maintenant, ou à risque maintenant. L'OMS a sorti une statistique. Un enfant de moins de 15 ans meurt toutes les 5 secondes dans le monde. Ça veut dire qu'il y a presque 1000 enfants qui seront morts le temps de ce culte. C'est pour vous rendre compte de ce qui est en train de se produire en ce moment. Mais nous, on ne le sait pas parce qu'en fait, les pauvres, ces fameux pauvres, ils ne sont pas en bas de chez nous. Ce serait très différent si tous les jours, quand vous vous levez le matin, il y a trois mendiants qui vous demandent à manger ou à boire. Forcément, votre attitude par rapport à la pauvreté serait testée en permanence. Nous, aujourd'hui, on est dans un monde où je ne sais pas si c'est l'ennemi qui a prévu ça, ou je ne sais pas comment ça s'est produit, mais il y a toute une frange de la population mondiale qui est dans l'extrême pauvreté, mais qui ne croise jamais la population riche. Autrement dit, on a beau jeu de dire, oh, on ne savait pas. Et lorsque j'ai commencé à travailler pour Compassion, j'ai ouvert mes yeux. Je me suis dit, non, on peut plus dire qu'on ne sait pas. On doit se renseigner. Et c'est ce que j'ai envie de faire un peu aujourd'hui avec vous. L'extrême pauvreté, c'est les gens qui gagnent moins de 1,90 $ par jour. C'est rien. Même dans les pays où le niveau de vie est très bas, il faut quand même plus que 2 $ pour s'en sortir. Et donc, comme je l'ai dit avant, ben, c'est un jour, un repas. Voilà. Donc, si tu ne vas pas travailler aujourd'hui, demain, tu ne manges pas. Alors on peut se dire, un adulte, ça va encore. Mais un enfant, si un enfant, oui, parce qu'on peut tous sauter un repas, je pense, ou une journée. Mais un enfant qui est dans son développement, il ne peut pas. Il ne peut pas. Et on sait que les enfants mal nourris dans les 5 premières années de leur vie, ça va impacter toute leur existence. Toute leur existence va être marquée. Ils auront une moins bonne santé, ils auront de moins bonnes capacités intellectuelles, ils vont avoir moins de ressources émotionnelles. Donc il y a besoin de nourrir ces gens-là. C'est une priorité importante. Dans l'extrême pauvreté a certains effets, la violence, la déscolarisation aussi, parce que si votre enfant qui est censé aller à l'école à 10 ans, ben, vous préférez peut-être l'avoir à la maison ou dans les champs pour travailler, pour gagner sa nourriture, plutôt que de l'envoyer à l'école où ça va vous coûter de l'argent et ça ne va rien vous rapporter. Donc il y a cette vision court-termiste où on se dit, ah, il faut travailler maintenant, il faut gagner notre vie maintenant, et on n'envoie pas les enfants à l'école. Il y a aussi toutes les questions d'alcool, de drogue, les abus sexuels, la prostitution infantile. Je veux dire, on n'imagine même pas ce qui se passe au niveau des viols, au niveau des abus. Beaucoup aussi en Asie du Sud-Est, c'est vraiment une épidémie. Là, à ce niveau-là, c'est vraiment grave. Il y a aussi l'endettement et l'esclavage. Souvent, les gens vont s'endetter parce qu'ils ont un pépin de santé, et ensuite, la personne qui leur prête de l'argent, mais à un taux où ils savent que l'emprunteur ne pourra pas tout rembourser. Et du coup, ce qu'ils font, c'est qu'ils disent à la personne, ben, vu que tu ne peux pas me rembourser, viens travailler gratuitement pour moi. Et c'est l'engrenage. Et après, il y a un deuxième pépin. Donc, c'est la femme qui vient travailler pour la personne. Puis après, il y a un troisième pépin, et c'est les enfants. On se retrouve avec des familles entières, avec des enfants de 2, 3, 4, 5 ans qui sont esclaves et qui travaillent pour des personnes qui ont prêté de l'argent à un taux usurier. Et c'est ce qu'on retrouve dans beaucoup de situations. Et Compassion se bat là contre. Nous, ce qu'on veut, c'est empêcher qu'on arrive à devoir emprunter de l'argent pour s'en sortir. Et du coup, c'est pour ça qu'on cherche des gens qui vont financer les besoins primaires des gens. Évidemment, les meurtres, l'obésité aussi, les maladies cardiovasculaires, c'est un petit peu surprenant, mais en même temps, quand on peut manger que du riz, eh ben, il manque des nutriments. Et du coup, ben, voilà, on mange ce qu'on trouve, on mange ce qu'il y a. Ou bien alors, quand tout d'un coup, il y a de l'abondance, on mange énormément. Et puis tout d'un coup, enfin, voilà, il y a tous ces dérèglements au niveau de la nourriture. Notre mission, c'est d'être centré sur Christ. Nous, ce qu'on veut, c'est prendre Jésus comme exemple, se centrer sur l'enfant, et on veut surtout travailler avec l'Église locale. Parce que si on ne travaille pas avec les chrétiens des pays, on ne va jamais s'en sortir. On est présent dans 42 pays. En vert, vous voyez les pays donateurs. Et en bleu, les pays bénéficiaires. Je vous explique juste en 2 mots comment est-ce qu'on fait quand on ouvre un centre compassion. Un centre compassion, ça pourrait être cette église ici. Imaginons que le nord de la Chaux-de-Fonds soit un quartier super pauvre. Et ben, nous, on viendrait ici, on viendrait parler avec Florence en disant, écoute, on a envie d'ouvrir un centre compassion. On te propose, on forme des gens de ton église. Et ensuite, une fois que vous êtes formé sur comment prendre soin des enfants, sur la protection de l'enfance, sur les besoins matériels, sur la nutrition, toutes ces choses-là, on forme des gens de l'Église. Et ensuite, on vous demandera d'aller sillonner le quartier, d'aller frapper à toutes les portes et de trouver les familles qui ont besoin de soutien. Et quand vous trouvez ces gens-là, vous les inscrivez sur des listes. Et une fois par semaine, le samedi par exemple, vous accueillez les enfants, vous leur donnez à manger, vous faites des jeux avec, vous chantez des chansons, vous leur donnez des fournitures scolaires, vous leur donnez des habits, des chaussures pour qu'ils puissent bien s'en sortir à l'école. Et puis, si c'est nécessaire, vous êtes en contact avec les familles. S'il y a un pépin de santé, vous allez amener les gens de la famille chez le docteur. Vous allez payer des lunettes pour que les enfants puissent suivre au tableau. Enfin, vous voyez un petit peu toutes ces choses-là. Donc, nous, on travaille avec les églises. C'est hors de question pour nous de travailler avec d'autres partenaires que les églises locales, parce que ce sont les églises qui sont les plus fiables. Mais c'est aussi hors de question pour nous d'envoyer des Européens travailler dans ces pays, parce que l'Européen dans un pays du Sud, ça coûte trop cher. On préfère utiliser cet argent pour financer 10, 15, 20, 30 familles en plus. Donc, c'est pour ça qu'on va toujours travailler avec des collaborateurs locaux. Ça, c'est quelques exemples, mais je vais raccourcir un petit peu. Et on travaille par parrainage. Et le parrainage permet la scolarisation, une formation professionnelle. Donc, le parrainage des enfants, ça commence à zéro et ça va jusqu'à 22 ans. D'ailleurs, j'ai amené des dossiers de parrainage ici. Il y a une jeune, elle a 21 ans. Ma femme, elle m'a dit, mais elle a besoin de parrainage. Puis je lui ai dit, mais certainement, elle est peut-être à l'université. Elle a besoin d'aide, elle aura bientôt son diplôme. Elle pourra s'en sortir, mais maintenant, elle a besoin d'aide. Donc, un suivi médical aussi, les médicaments, le développement personnel. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Nous, on prend soin des gens, on s'intéresse aux gens. C'est vraiment ça l'idée. Quand vous êtes un enfant dans une famille extrêmement pauvre, vous entendez toute la journée, tu nous coûtes trop cher, on ne sait pas comment on arrivera à te nourrir, ta vie, elle sera nulle, comme la nôtre. C'est ça que les enfants dans l'extrême pauvreté entendent. Nous, on veut que quand ils viennent au centre compassion, ils entendent « Jésus t'aime, il est mort sur la croix pour toi. Moi, en tant qu'adulte, j'estime que tu as de la valeur. Ton parrain ou ta marraine à l'autre bout du monde, il prie pour toi tous les jours et il pense que ta vie, elle est intéressante. Il pense que tu vas pouvoir faire quelque chose de ta vie. » Imaginez ce qui se produit dans le cœur de l'enfant quand il y a ça qui se passe, quand il y a ça qu'il entend. Donc, ça, c'est ça l'objectif, les encouragements. Le parrainage qu'on fait, c'est un parrainage individuel. Autrement dit, l'enfant que si vous parrainez un enfant, vous serez son seul parrain ou sa seule marraine. Voilà. Il y a plein d'autres organisations qui disent on fait des parrainages, mais on ne sait pas vraiment où va l'argent. Ben là, on sait, l'argent va pour l'enfant en question. Nous, on est engagé au niveau de Compassion Suisse. 80% de l'argent qui est récolté en Suisse va sur le terrain. On est obligé d'avoir 20% pour des frais de fonctionnement en Suisse. Mais si vous comparez avec d'autres organisations, on est assez bon. Mais 80% va pour l'enfant sur place. Et puis, ça coûte 42 francs ou 50 francs par mois, ça dépend. Et l'idée, c'est des finances, mais c'est aussi de la prière. Donc, il y a un lien qui se fait avec l'enfant parce qu'il y a un échange de lettres, de correspondances. Et là, l'idée, c'est d'entendre les sujets de prière de l'enfant, les sujets de prière individuels. Et c'est de lui dire, moi, je prie pour toi. J'ai lu dans la Bible ça et puis j'avais envie de le partager parce que je pense que ça peut te parler. Je me réjouis de voir à quel point tu grandis. Voilà, ce genre d'échange qu'on peut avoir avec des enfants. J'aimerais juste vous raconter l'histoire maintenant d'un jeune qui est venu en Suisse dernièrement, qui s'appelle Rémi. Alors là, il est un peu moins jeune, il a 30 ans. Il est rwandais. Et en fait, ça ne se voit pas très bien sur l'image, mais il est albinos. Au Rwanda, quand vous êtes albinos, c'est un problème. Parce qu'il y a des croyances là-bas. Alors, ça dépend maintenant. Quand il est né, c'est il y a 30 ans, juste après le génocide. Il y avait son pays qui était complètement détruit. Il n'y avait plus d'école, plus de police, plus rien. Il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus d'hôpitaux. Les gens étaient dans la rue, essayaient de faire pousser des trucs pour se nourrir. C'était vraiment compliqué. Et lui, il est né à ce moment-là, albinos. Quand il est né, sa mère a dit à son père, « On a un albinos. » Son papa a dit cette phrase horrible, première phrase de son père, ne ramène pas cette chose à la maison. Parce qu'il y a des croyances que lorsque vous êtes albinos, il y aura une malédiction, vous allez être mis au banc de la société, vous allez attirer le malheur sur le quartier, sur la région, bref. Donc, il a été abandonné le premier jour. Il y a une famille qui a eu pitié de ce nourrisson, ce nouveau-né, qui l'a recueilli à la maison. Le problème, c'est qu'ils avaient les mêmes croyances. Ils ont eu pitié, mais est-ce qu'on va être accepté par les voisins? Est-ce qu'on ne va pas s'attirer des problèmes? Comment est-ce qu'on peut... Donc, ils l'ont pris. Mais ils ne l'ont pas mis dans leur maison. Il y avait deux maisons. Il y avait la maison où la famille habitait, puis il y avait la maison avec les animaux, les poules, les cochons, tous les animaux de la ferme, en fait. Mais en fait, ils l'ont mis là. Et ils l'ont nourri de temps en temps pas. Rémi me disait, que je discutais avec lui, il est venu en Suisse pour raconter son histoire. Il me disait jusqu'à l'âge de 6 ans, de temps en temps, j'avais à manger, de temps en temps, je n'avais pas à manger. Mais c'est un enfant. Un enfant de 2 ans, de 3 ans, moi j'ai un petit gars de 3 ans, s'il n'a pas mangé un repas, c'est compliqué. Lui, des fois, il était négligé. Il me disait, je me rappelle, ma famille adoptive, elle avait peur de moi, donc il me lançait la nourriture, il ne voulait pas me toucher. Ils ne m'ont jamais serré dans les bras, ils ne m'ont jamais donné le bain. J'étais brûlé à cause du soleil. Je suis, en tant qu'albinos, on est sensible au soleil. M'a dit, mais c'était horrible. Et à l'âge de 6 ans, il y a un centre compassion qui a ouvert dans son quartier. Les équipiers de compassion sont venus frapper aux portes pour dire, est-ce qu'il y a un enfant à parrainer chez vous? Et sa famille adoptive a dit non. Nous, on n'a personne. Bon, on en a bien un, mais comme on ne pense pas qu'il va s'en sortir, ne gaspillez pas d'argent pour lui. Ils ont renvoyé les équipiers. Donc, l'équipe de compassion ne savait pas. Le jour où le centre compassion ouvre, Rémi voit 200, 300 enfants qui affluent vers l'église locale. Puis il se dit, mais moi, j'ai aussi envie de... Alors, il suit le mouvement. Mais à ce moment-là, les gens ont peur de lui. Ils lui lancent des trucs, ils le tapent, ils lui donnent des coups de pied, ils lui crachent dessus. À 6 ans, il arrive au centre de compassion et l'équipier qui réceptionne les enfants, il dit, comment tu t'appelles? Rémi, t'es pas sur la liste. Je peux rien pour toi. Et Rémi se bat. Il hurle, il crie, il m'a dit, ce jour-là, je me suis battu pour ma vie. Et il s'est battu de toutes ses forces. Il a hurlé, il a crié, tapé du poing, tout ce qui rien n'y faisait. L'équipier de compassion avait des ordres de tu prends seulement ceux qui sont sur la liste. Et il lui a dit non. Et Rémi se retrouve à pleurer dans un coin. Et là, le responsable du centre, peut-être c'était le pasteur, je ne sais pas, il voit ça. Et il fait tout arrêter. Imaginez la fête, 200, 300 enfants, de la nourriture, des habits qui sont donnés, des fournitures scolaires, des machins. Il y a de la musique, il y a tout ça. Le gars, il fait tout arrêter. Il va vers Rémi, il le serre dans ses bras. Première fois de sa vie. Il le serre contre lui, il lui dit, je t'aime et mon Dieu t'aime aussi. Rémi m'a dit, c'est la première fois que j'ai entendu je t'aime. Donc il arrête de pleurer. Et ensuite, le responsable, il va vers tout le monde, il leur dit, hé les amis, si on ne prend pas soin de Rémi, mais de qui est-ce qu'on peut bien prendre soin? Est-ce qu'il n'y en a pas un qui a besoin d'aide? C'est lui. Et du coup, ils ont décidé de le parrainer. À partir de là, tous les jours, ils sont allés le chercher à la maison. Ils prenaient soin de lui, ils lui ont donné à manger, ils lui ont donné des crèmes pour sa peau, ils lui ont chanté des chansons, ils lui ont raconté des blagues, parce qu'il fallait aussi le reconstruire émotionnellement, il était détruit. Ils ont trouvé un parrain et marraine aux États-Unis. C'était lors d'un culte comme celui-ci. Il y a quelqu'un qui est venu présenter compassion. Il y avait un dossier de Rémi qui était là. Et il y a une petite fille qui a pris le dossier, qui a dit, c'est lui qu'on doit parrainer. Elle allait voir ses parents et ils ont parrainé Rémi. À partir de ce jour, cette famille, je ne sais pas pourquoi ils ont décidé ça, ils ont écrit une lettre par semaine. Nous, on dit aux parrains marraines, on dit écrivez 3, 4 fois par année, ça suffit. Mais eux, ils se sont dit, lui, il a besoin qu'on mette le paquet. Ils ont écrit toutes les semaines pendant des années. Chaque lettre commençait par cette phrase. Cher fils. Quand c'était la fille de la famille qui écrivait, elle disait, cher frère, Rémi m'a dit, j'ai été abandonné par ma première famille, j'ai été maltraité par la deuxième, j'ai été béni par la troisième. Et il a pu être complètement restauré, il a fait des études, il a réussi ses études, il est psychologue aujourd'hui, il s'est marié l'année passée, il a rencontré ses parrains marraines américains, il a pu les voir. Non, non, il n'a pas encore pu les voir. Il les appelle souvent, pardon, ils n'ont jamais pu se rendre au Rwanda et lui n'a pas pu aller aux États-Unis. Et il m'a dit, en fait, qu'il a été complètement restauré par cet échange de courrier. Des Rémi, j'en ai peut-être pas, ils ne sont pas tous comme Rémi, mais aujourd'hui, on cherche 260 000 parrains et marraines pour compassion. Ils ne sont pas tous comme Rémi, ils ne sont pas tous dans la même situation. Il y en a certains, oui. Et moi, j'ai envie de vous encourager, si vous êtes ici et que ça vous parle, que vous dites, moi, j'ai envie de faire un parrainage. J'ai amené des dossiers de parrainage. Désolé pour ceux qui nous suivent à l'écran, je n'ai pas pensé à vous préparer mieux. J'ai amené des dossiers de parrainage comme ceci. Vous pouvez aussi aller sur le site, vous pouvez aller sur compassion.ch, vous pouvez trouver des enfants à parrainer. C'est des dossiers individuels. Ces dossiers, ils ont imprimé ceux-là, ils ont une date d'expiration. Autrement dit, vous pouvez prendre un dossier à la maison, y réfléchir tranquillement. Et si tout d'un coup vous sentez que Dieu n'a pas prévu que vous parrainiez un enfant, vous pouvez mettre le dossier à la poubelle. Ce n'est pas un problème. Dans 10 jours, dans 15 jours, cet enfant retourne dans notre système pour être parrainé par quelqu'un d'autre. Si vous décidez de parrainer un enfant, il faut le faire dans les 10 jours. Sinon, il sera peut-être entre-temps piqué par quelqu'un d'autre pour être parrainé. Alors, c'est une bonne nouvelle, mais c'est dommage pour vous. Voilà. Il y a aussi des fois des gens qui me disent, mais c'est un peu bizarre d'avoir des photos d'enfants, on doit choisir, pourquoi? Et moi, je vais vous dire pourquoi on fait ça. La pauvreté, elle a un visage. n'est pas un chiffre. La pauvreté, c'est Prince du Ghana qui est né le 30/4/2017, que lui, il a besoin d'aide. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on ne peut pas juste dire c'est une statistique. Non, c'est des vraies personnes. Et pourquoi est-ce qu'on met des dossiers comme ça? Parce que, par exemple, vous pourriez avoir envie de parrainer un enfant, mais vous voulez avoir un échange de courrier avec cette personne. Et peut-être qu'il faut choisir un enfant qui a 14 ans, qui peut vous répondre. Si vous parrainez un enfant qui a 2 ans, l'échange va être sommaire. Ce sera écrit par sa maman ou par l'équipier de compassion pendant X années jusqu'à ce que vous ayez un vrai échange, par exemple. Ou bien alors, si vous avez à cœur, si vous avez envie de vous battre contre la prostitution des filles en Asie du Sud-Est, ben, il faut prendre une petite des Philippines, par exemple. Il ne faut pas prendre un gars du Burkina Faso, parce que ce n'est pas le même problème. Et si vous avez, par exemple, de la famille, je ne sais pas moi, au Rwanda, ben, parrainez un petit Rwandais. Comme ça, vous pouvez envoyer des cadeaux. Enfin, vous voyez un peu l'idée. Donc, c'est pour ça qu'on propose aux gens des dossiers un peu différents pour, voilà, pour parrainer. Voilà, donc j'avais juste envie de vous laisser ça pour aujourd'hui. Je sais que j'ai fait un petit peu trop long, je suis désolé. Un parrainage, c'est le prix d'un café par jour quand on avait encore le droit d'aller au restaurant. Bon, ça revient. Si vous avez envie, c'est volontiers. Si vous avez envie de parrainer un enfant, vous pouvez aller sur compassion.ch ou bien parrainer.ch. Et puis ça, c'est possible. Je vais me tenir à la sortie pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas. Je vous remercie pour le temps. Puis je suis navré. Je crois que j'ai explosé mon budget temps. Super. Ben merci pour votre accueil, pour votre attention. Soyez bénis.